L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Dans les cuisines littéraires, il y a, comme dans tout bon restaurant, une brigade cuisine. Deux des acteurs clés de cette équipe sont l'auteur et l'éditeur. De ce couple premier naissent les livres. Un couple, c'est une histoire. Amour, amitié, disputes, distance, incompréhension, réconciliation. Autant de moments de vie, de bons et de mauvais souvenirs. Vous écoutez L'Épluche Livre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la relation auteur-éditeur.
P comme. Pas mal les petits fours. Vous avez des nouvelles de Pierre ?
Pierre est parti pour le Pérou. Pétrolier le Poitou, pour payer son passage, il a pris dans l'équipage un emploi.
Il pêche du poisson sur le pont, pom, 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 pour compléter les provisions.
Monsieur Riotor, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Rivière.
Bonjour.
Vous êtes respectivement auteur et éditeur, entre autres, bien sûr. Vous avez collaboré récemment donc sur la publication d'un titre, d'un recueil de nouvelles ibériques, dont nous allons parler un petit peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, Monsieur Riotor, donc Guy Riotor, bienvenue parmi nous, parler de votre parcours, ce que vous faites.
En deux mots.
Deux ou trois, on a un peu de temps, oui.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Vous faites de la photo ?
Alors oui, je suis photographe.
Oui.
Je suis devenu photographe professionnel sur le tard, après avoir eu un parcours professionnel autre. Je crois qu'on a plusieurs vies.
Mm-hmm.
Donc, cette seconde ou troisième ou quatrième, je ne sais, vie qui a démarré aux alentours de la soixantaine, me porte vers ma passion première, qui est la photographie et la peinture. Mais je suis photographe, en effet. Ah oui.
Oui, si vous pouvez vous rapprocher un peu.
Je suis photographe.
Vous êtes photographe, vous êtes aussi artiste peintre.
Oui.
Oui. Commettez quelques tableaux, quelques toiles.
Oui, régulièrement, je peins. Actuellement, par exemple, je fais une exposition. Je suis aussi ouvert à toutes ces formes d'expression. Enfin, en tout cas, j'aime toutes ces formes d'expression. Donc, que ce soit l'écriture, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, d'accord ? La photographie et la peinture.
Vous exposez où actuellement ?
J'expose à la galerie JMO, c'est dans la zone de Tournesy.
De Tournesy, c'est-à-dire comment on y accède ?
Ah, c'est rue Olof Palme, voilà. Donc comment on y accède ? C'est du côté de l'avenue de l'Industrie, donc du côté de près d'Arène.
D'accord. D'accord. Et vous exposez donc vos dernières peintures avec une thématique particulière ?
La prochaine thématique, parce que j'y reste, ça sera le noir, avec bocage d'ailleurs.
D'accord. Très bien.
Voilà.
Et en plus de tout ça, bien sûr, le sujet de cette émission, vous êtes auteur. Vous écrivez ?
J'aime beaucoup les mots.
D'où vient cet intérêt ?
Oh, je crois que ça vient de loin, parce que j'ai fait quelques études littéraires et j'ai toujours adoré notre langue que j'ai enseignée d'ailleurs et que je porte haut et que je défends. Elle est en danger bien souvent, elle est malmenée. Il suffit d'écouter justement les ondes, y compris les ondes nationales, pour voir à quel point elle est malmenée, y compris par ceux qui sont censés très bien la parler. Donc je suis un défenseur du français, y compris à l'étranger.
D'accord, donc de la francophonie. Qu'est-ce que vous entendez ?
J'ai été, à un moment de ma vie, enseignant de LFE, donc de français langue étrangère. Et bien sûr que donc tout ça est lié. Donc effectivement, les mots, le français, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup.
D'accord. Et vous avez aussi une passion pour l'Espagne, l'Ibérie,
l'hispanophone. J'ai une passion pour la langue là aussi, puisque au fond, c'est la langue, ça unit beaucoup. Parce que lorsque je dis que j'adore le français, naturellement, c'est la francophonie. Hein. Ça touche aussi tous les pays francophones.
Très bien.
Et de la même manière, si je dis que j'aime l'Espagne, c'est vrai. J'aime l'Amérique latine, j'aime l'espagnol. Voilà, l'espagnol, c'est cette langue véhiculaire qui me porte vers des horizons qui m'intéressent beaucoup au niveau de la créativité et de l'expression. Et je vais souvent, le plus souvent possible, effectivement, parce que c'est proche et parce que j'en adore son mode de vie, je vais souvent en Espagne, le plus souvent en Catalogne, qui est tout à côté, un jet de pierre, mais aussi en Andalousie assez régulièrement.
Très bien. Donc, vous défendez la langue française, la langue espagnole, les langues espagnoles. On dit hispanophonie, d'ailleurs.
Ah oui, on dit hispanophonie, ouais. Oui.
Et vous trouvez justement la thématique de cette émission et la relation. Donc, on va pousser plus en amont la relation que vous avez avec M. Rivière, ici présent, dans le cadre de l'édition de votre dernier ouvrage. Est-ce qu'il y a une relation entre le français et l'espagnol? Quelle relation y a-t-il?
Elle est culturelle, elle est d'ordre... Oui, c'est une manière d'envisager le monde, de voir les choses.
D'accord.
Et il se trouve que Jean-Claude était hispanophone aussi.
Ah.
Donc, ça tombe bien. j'ai rien contre les anglophones, soit dit en passant. J'ai un peu plus de mal avec eux. Donc, je m'entends d'autant mieux avec Jean-Claude qu'il est versé dans cette culture-là.
Mmh. Par entendre, on sous-entend comprendre aussi.
Comprendre, entendre, en effet, oui.
Monsieur Rivière, bonjour à nouveau.
Rebonjour.
Rebonjour. Vous avez créé donc l'association Ubique Art, si je ne me trompe pas, ainsi que la maison éponyme.
Enfin, disons que l'un a été la conséquence de l'autre.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors là, on se lance une grosse aventure. Bon, alors, en deux mots, on va dire que Ubique Art, au départ, est-ce que oui, c'est... D'accord. Au départ, c'était une association qui avait été créée pour gérer des événements culturels à Agde.
D'accord.
Dans la ville d'Agde, où il y avait effectivement pas mal à faire. D'ailleurs, on a fait. Et puis, cette rupture, il y a eu une rupture entre la municipalité et ce que je décidais de faire avec eux. Il n'y avait pas de retour, ce qui est assez gênant dans ce genre d'affaires. Mmh. Et donc, j'ai mis l'association en sommeil. Et elle s'est réveillée avec... une de ces branches, puisqu'il y avait plusieurs possibilités, elle s'est réveillée avec le confinement, le fameux confinement,
très bien,
qui a été l'occasion de repartir sur des publications autres que personnelles. Parce qu'en réalité, soyons un petit peu, de temps en temps, auto-centrés, j'avais commencé par créer une maison d'édition pour me publier.
Ah.
Parce qu'en réalité, c'était mon problème, j'avais du mal à trouver des éditeurs, enfin, j'avais pas de mal. Disons, ça m'ennuyait assez d'être tributaire d'éditeur.
C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui vous ennuyait, justement, dans cette relation?
Alors, c'est très simple. Ce qui m'ennuyait, c'est que mon éditeur me connaissait en tant qu'auteur sérieux.
Mm-hmm.
Et quand j'ai commencé par lui apporter des recueils de poésie, il n'a pas très bien compris pourquoi l'archéologue sérieux et totalement dans son métier s'est mis d'un seul coup à lui apporter des choses qui étaient beaucoup moins formel,
un
disons.
Un peu plus fantasque.
Qu'il a d'ailleurs publié, parce qu'il était très sympa, c'est un ami. Enfin, je ne comprenais pas trop. Et puis, à un moment donné, j'ai profité de l'occasion qui m'était offerte, parce que j'avais des textes à publier, pour lancer une première publication, puis une deuxième. Je crois même qu'il y a eu trois ouvrages qui ont été les premiers publiés sous l'intitulé du Bicard, avant que le déferlement de demandes de publication arrive suite au confinement, puisque... En fait, on avait deux activités différentes. Il y avait l'activité associative qui faisait des événements, expositions, conférences, et de temps en temps publier. Et puis moi, j'avais également, avec la faculté de sciences, des cours d'écriture théâtralisée.
Mmh.
Cours qui ont été, bien sûr, très vite remisés et mis passés aux oubliettes lorsqu'on nous a dit qu'il fallait rester chez nous. Et mes étudiants, qui étaient surtout des gens qui étaient des amis, m'ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer en ligne? On a donc continué en ligne, ce qui fait qu'on a créé un groupe qui s'appelait Virtuelle Écriture, virtuel parce que c'était effectivement très virtuel, Et très vite, ils sont passés au stade. Ça serait peut-être pas mal qu'on puisse également se lire sur du papier. Et donc, les premières publications qui ont suivi les trois premiers ouvrages qui étaient signés par Marcelli, c'est moi-même, ont été suivis très vite par des publications très régulières et très rapprochées, puisque c'était tous les 15 jours. On faisait un recueil tous les 15 jours. Et à ce moment-là, ces auteurs qui étaient des auteurs participant à ces ouvrages collectifs, certains avaient la capacité, et ils avaient aussi le volume de production permettant de les publier en tant qu'auteurs autonomes. Mmh. Et voilà comment nous avons démarré. Et aujourd'hui, je regardais ça ce matin, nous sommes à 130 titres publiés depuis 2020, c'est ça, oui.
De cette revue-là ou en tout dans le catalogue de votre maison ?
La revue représente 28 numéros, si je me souviens bien, et le reste, ce sont des ouvrages publiés avec des auteurs comme M. Guiriotor ici présent, mais il y en a bien d'autres, parce qu'on a quand même, une écurie d'auteurs, enfin, on va parler de team plutôt, c'est plus sympa qu'écurie, on a une team d'auteurs qui est assez importante, et ça va de l'auteur à tendance philosophique à l'auteur purement poétique qui va d'ailleurs faire de la poésie presque, je dirais, humoristique, en passant par le roman policier, enfin, tous les genres sont représentés.
Combien d'auteurs publiez-vous ?
Combien d'auteurs en tout ? C'est une très bonne question. On va dire que sur les 100 titres qui sont des titres, non pas de collectif, mais d'ouvrages individualisés, ça doit représenter 80 auteurs à peu près, parce qu'il y en a certains qui sont des staccanovistes et qui n'hésitent pas à revenir, et revenir souvent. Je pense en particulier à M. Saint-Ignan, qui est très connu à Montpellier. Donc je crois qu'on a dû publier 4 ouvrages de Claude. Il y en a d'autres, il y a La Pépin. Enfin, on a des auteurs qui sont extrêmement fidèles. Mm-hmm. Et donc, certains auteurs ont publié entre 3 et 4 ouvrages. D'ailleurs, M. Riotor sera bientôt de cela, parce que je pense qu'il est en train de produire...
Enfin, il a l'air convaincu.
Oui, il n'a pas l'air tout à fait convaincu.
Si, je confirme.
Mais je suis convaincant. Donc voilà, et ces auteurs-là, finalement, sont devenus des sortes, je dirais, de moteurs aussi, parce qu'il faut avouer que, de temps en temps, les bras sont un peu difficiles à lever, et on a tendance à les baisser. Eh ben, là, je pense que je me fais rappeler à l'ordre par les auteurs, et c'est très intéressant de voir qu'il y a une synergie qui va dans les deux sens. On peut être assez insistant auprès de gens que l'on sait être en demande, mais qui, parfois, ralentissent un petit peu, et puis il y a le contraire aussi qui se fait, ce sont les auteurs qui viennent taper à la porte en disant « il ne faudrait peut-être pas que tu nous oublies
». C'est une relation, donc comme nous le disions un petit peu en intro, dans la petite intro que j'ai travaillée tout à l'heure, c'est une relation, un binôme quelque part, que vous avez avec chaque auteur finalement.
C'est une relation qui d'ailleurs, à mon avis, est première à toute continuation dans nos relations. Je fais des rimes sans m'en rendre compte. C'est que si je n'ai pas une certaine accroche avec la personne qui vient me voir, je n'ai pas pu. J'ai insisté une seule fois, pour continuer dans une relation qui était mal partie, ça s'est mal terminé. Donc, il se vérifie, je dirais, de façon tout à fait évidente, que si au départ, il n'y a pas une sympathie, il n'y a pas une certaine empathie entre l'auteur et l'éditeur, ça marchera moins bien. Et puis surtout, ça risque d'être une affaire purement financière, ce qui n'est pas du tout notre propos. On essaie de ne pas mourir asphyxié, parce qu'il faut quand même arriver à gérer, mais ce n'est pas forcément le principal souci et des auteurs et de l'éditeur, en l'occurrence moi-même, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'abord arriver à tenir un certain équilibre et à publier un plus grand nombre possible d'auteurs, parce que les demandes se font de plus en plus pressantes.
Très bien. On va faire une petite pause, notre petite pause musicale, donc avec un morceau qui a été choisi par notre invité, M. Riotor, « No me digas que no ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau rapidement ?
C'est du flamenco au piano, par un pianiste que je trouve remarquable, que j'ai découvert il y a 30 ans et que je vois de temps à autre sur scène, à Gérone d'ailleurs, et qui s'appelle Chano Dominguez. Voilà.
Très bien, nous écoutons.
A la vera del agua tengo un barco de vela que es de miel y canela, de plata y cristal. Un barquito de ensueño que es la envidia del mar, y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado tengo un cariño encerrado que nadie lo ve. Este cariño es tuyo. orgullo, que es mi pasión y mi orgullo, y mi gloria y mi ley. No tengas celos de mí, que no puede ser verdad, eso que vas tú diciendo y vas pregonando de mi voluntad. No tengas celos de mí, ni tú de mi querer, que si yo vivo y si muero y es porque te quiero de ver a mi rey. Que te a mí, tú nunca debes dudar, porque tú mandas en mi voluntad. Puerta de tierra, que hay un barco de guerra y lo vamos a ver. Vente tú, mi gitano, y verás tú que bien. Iremos los dos juntitos y daremos un paseito y tomaremos un chupito de vino del rey. Vente conmigo, gitano, que ese vinillo da ganas y nos va a sentar bien. No tengas celos de mí, que no puede ser verdad eso que vas tú diciendo y vas pregonando de mi voluntad. No, 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 no tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero y es porque te quiero de ver a mi rey. Que tú no, nunca me has dicho que no, que tú a mí siempre me has dicho que sí.
Vous écoutez Les Pluches Libres. Nous sommes en compagnie de M. Guy Riotor et M. Jean-Claude Rivière, tous deux, donc l'un auteur, l'autre éditeur. Et nous allons pousser un peu plus en avant dans cette seconde partie d'émission la relation. Alors, la relation que j'ai souhaité imager par une relation de couple, un duo. Vous avez parlé, M. Rivière, donc d'une amitié, d'une synergie sur le travail éditorial. Est-ce qu'on peut déjà commencer par le début, comme dans toute histoire d'amour, la rencontre ?
Ah, la rencontre. Alors, je vais laisser s'exprimer Jean-Claude. Je crois qu'il va dire qu'on s'est rencontrés dans un atelier de peinture.
D'encadrement.
D'encadrement, pour être tout précis.
Tout à fait.
Monsieur Rivière.
Alors, c'est très simple. À l'époque dont nous parlons, qui est déjà un peu révolue, j'étais aussi journaliste dans un journal qui s'appelait Ideo, qui était un organe culturel d'une certaine notoriété et dont je faisais régulièrement les vernissages, enfin, toutes sortes de lieux où je pouvais rencontrer un certain monsieur Rizotor que j'avais aperçu, mais que je n'ai jamais rencontré aussi bien que chez Laurent Salé, l'atelier d'encadrement dont nous parlions, où là on a eu l'occasion d'échanger. Et j'ai trouvé ce monsieur à la fois intéressant, mais dans le bon sens du terme. Intéressant, parce qu'en anglais, j'ai appris qu'en anglais, quand on dit que c'est intéressant, c'est que ça n'est pas intéressant du tout. Donc, j'ai trouvé intéressant, et j'ai surtout trouvé naturel et vrai, ce qui n'était pas toujours le cas dans ce genre d'endroit où on sait qu'on a des attitudes très, très téléguidées ou très téléphonées. Et à partir de ce moment-là, on a eu l'occasion de se revoir, parce que de cette fameuse expérience dont nous parlions tout à l'heure, les cahiers virtuels écriture, c'était ouvert à toute personne qui avait de quoi s'exprimer sous la forme soit de texte, soit de peinture, soit de dessin, soit de photo. Or, Guy avait un peu tout ça.
Ah oui,
et
oui.
Donc, et on s'était rencontrés à Capifrance, donc, lors d'une exposition de photos.
Et comme Capifrance, c'était un lieu que j'avais investi, puisque dès le départ, on m'avait demandé d'être une sorte d'apporteur. Je n'avais pas apporté Guy, mais enfin, j'ai apporté d'autres personnes. Il se trouve qu'à ce moment-là, et je l'avais d'ailleurs interviewé, et même filmer notre interview, puisqu'il était passé en ligne ensuite. Donc, on avait déjà une relation qui
il
était...
Il est toujours en ligne.
Il est toujours en ligne. Bon, c'est parfait, on va pouvoir réécouter et se critiquer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on avait déjà une relation qui était une relation assez libre et assez libérée. Et à ce moment-là, il est rentré encore plus près de mon environnement en donnant des textes qui étaient pour la plupart du temps illustrés soit de compositions photographiques, soit de peintures. Et tout à l'heure, je me souvenais d'ailleurs de l'Arenal, qui était une nouvelle qui se passe au Venezuela, non ?
Au Costa Rica.
Au Costa Rica, pardon. Et donc, en tout cas, c'était, pour moi, ça avait été un texte très fort que j'avais beaucoup apprécié. Et ensuite, comme Guy est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne, en tant qu'être humain, on s'est rencontrés plus fréquemment et puis on a surtout discuté. Et quand il a eu l'occasion de dire « j'ai de quoi publier quelque chose de plus construit qu'une simple nouvelle », ça a donné Ibérique, qui est le premier pavé qu'on a mis en place pour notre route à venir.
Mais c'est bien.
Moi, je peux ajouter quelque chose.
Mais avec plaisir.
C'est-à-dire qu'effectivement, ces deux petites nouvelles datent un peu. C'est-à-dire, j'en avais écrit deux moutures, les moutures, il y a grosso modo une dizaine d'années. Mm-hmm. Et donc, Jean-Claude, les ayant lus, m'a dit ça vaut le coup, effectivement, ça m'intéresse. Mais je connaissais leurs défauts. Des tas de gens, des amis, des femmes en général, parce qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs. Mm-hmm. Peut-être que chez les lecteurs aussi, il y a un petit problème d'animosité, je ne sais pas pourquoi. je dis ça comme ça, de manière gratuite, enfin presque. Et donc c'est plutôt les échos féminins que j'en avais eus, qui m'avaient dit, écoute, ça manque de souffle.
D'accord.
C'est pas mal, les idées sont très bien, mais ça manque de souffle. Donc, j'ai entrepris la réécriture, ce qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long que l'écriture initiale.
Et c'est un travail que vous avez entrepris seul ou en collaboration avec M. Rivière ?
Alors, je l'ai entrepris seul, mais on n'est jamais seul. C'est-à-dire, j'ai aussi des là aussi, ce sont des amies femmes.
Des lectrices, qui
me corrigeaient ou qui m'apportaient leurs avis. Bien sûr, oui, ça, c'est quand même un travail de solitaire, hein, travail solitaire. L'écriture, la peinture, tout ce que je fais d'ailleurs, ce sont des travaux solitaires. Sauf qu'à un moment, et c'est un peu le thème de cette partie de l'émission, à un moment, l'autre compte, et l'éditeur plus que quiconque.
Et oui.
Le lecteur, évidemment, le regardeur, mais le lecteur, évidemment, donc, et l'éditeur est extrêmement important, et donc il y a eu cette synergie, cette. Complicité, parce que ça, le terme de complicité est extrêmement important.
Oui. Et est arrivé le moment où vous avez présenté donc ces deux textes.
Après avoir mis un an, sur une durée d'un an et quelques, d'ailleurs Jean-Claude se désespérait, enfin, il me disait, mais alors où en es-tu ? Et c'est vrai qu'il me le reproche un tout petit peu. Sur le côté un peu orfèvre, il me reproche, et il m'a reproché récemment encore, d'avoir demandé de corriger des broutilles. C'est vrai. Donc, tout ça s'inscrit dans le temps très long. Moi, je suis, philosophiquement, j'essaie d'avoir un parcours, d'inscrire ma vie désormais vers un crépuscule heureux, c'est-à-dire dans le temps long. Ça ne sert à rien de courir, mais strictement rien lorsqu'on a un âge mûr. Et donc, dans tout ce qu'on crée, tout ce que je crée, je prends le temps. Parce que c'est ça le plus important. C'est le moment où on crée. Le moment où je peins, le moment où je crie. C'est le moment le plus important. Alors évidemment que la suite logique, c'est de le porter au regard des autres. C'est important et c'est là que Jean-Claude intervient.
Et oui, puisque en tant qu'éditeur, vous prenez sur vous les risques de la publication, les risques du succès, mais les autres risques aussi.
Pas vraiment. Il y a des gens avec qui on ne prend pas de risques. Et ce que je veux dire, parce que je vais quand même rebondir sur ce que vient de dire notre ami Guy, c'est que d'abord, ces nouvelles étaient déjà complètement ficelées. Quand je dis ficelées, elles étaient parfaitement achevé quand il me les a donnés.
C'est un reproche alors que vous lui faites comme
il
le
pense ?
Pas
du tout. Il dit simplement qu'il est tellement perfectionniste, ce qui n'est pas un défaut, c'est une qualité, mais qui peut devenir. Bon, si on ne le comprend pas, on peut dire mais qu'est-ce qui me cassait les pieds, on va changer. J'ai jamais dit ça parce qu'en réalité, je suis un peu comme toi, ou comme vous, pardon. J'aurais tendance à, quand j'écris un texte, à le revoir 10 fois, et même quand je l'ai écrit, même quand je l'ai publié, je vais dire ah non, mais franchement, ce mot n'était pas le bon. Donc cette tendance relativement naturelle à être dans la reprise permanente, c'est quelque chose que Guy m'a montré au sujet de ses thèses qui étaient déjà parfaitement finies, mais qu'il a parachevé en faisant ce que j'ai qualifié de travail d'orfèvre, parce que c'est bien ça, il a ciselé, le mot et la phrase ne sont pas anodins, je crois qu'il a tout a été vu, revu, et chaque mot est à sa place et pas à une autre. Voilà, je crois que j'ai à peu près défini.
Et c'est votre regard, votre expertise d'éditeur donc, qui a figé ça sur le papier. Donc vous l'avez figé en tant que texte, mais vous l'avez figé en tant qu'objet aussi. Il a fallu faire un choix de maquette, un choix de première de couve, de quatrième. Comment ça se travaille ? Comment vous l'avez travaillé pour Ibérique ?
Alors c'est très simple. On avait quand même une matière avec Guy, qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Donc à partir de ce moment-là, quand on a la chance d'avoir un texte qui est quelque part en osmose, en symbiose avec ce qui sera la couverture, déjà, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de s'interroger, on sait que quelque part, il y aura une résonance qui sera la bonne. Et puis après, au niveau du montage, bon, c'est vrai que j'ai quelques poncifs maintenant, parce que je suis déjà un vieil éditeur, ça fait 5 ans maintenant qu'on fonctionne réellement avec des productions régulières. Donc j'ai pris des habitudes, on n'a pas une charte graphique, mais il y a des dispositions. Quand on voit un livre qui a été publié par notre maison d'édition, on va tout de suite voir la couverture avec le nom de l'auteur qui est de toute façon à gauche et disposé verticalement. Il y a quand même une disposition qui devient archi-classique. Et je crois que moi, j'ai aucun souci. Ah oui, il y a une signature aussi qui est particulière. C'est celle-ci quand on tourne à la première page. Voilà. La première page de garde et la dernière reprennent en général l'illustration de la couverture, mais une traitée en positif, une en négatif.
Ah oui, en effet.
Ouais, entre le yin et le yang. Enfin, bon,
le contre-cible.
Il y a une patte, hein. C'est très beau.
Alors, c'est amusant parce que j'ai ça, je l'ai bloqué sur Ubicar. Et comme maintenant, nous avons une deuxième maison d'édition, mais dans la deuxième maison d'édition, il n'y a pas. Il y aura d'autres critères d'identification, mais pas celui-là.
D'accord.
J'ai voulu quand même que ça reste quelque chose de très particulier à Ubicar.
Et oui, l'image de marque, là, de la maison.
Bah, disons que c'est surtout une question, je dirais, pour moi, une question d'habitude, parce que je suis encore actuellement le seul qui met la main à la pâte pour le montage des ouvrages. Donc, je reconnais qu'il m'est plus facile de ne pas m'interroger. Je sais que ça sera... Voilà, il y a une question, c'est pas de la routine, mais c'est une habitude de construction.
Très bien. Très, très bien. Mais merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien. Je pense qu'on pourrait le continuer encore bien longtemps.
Mais
j'ai énormément de questions à poser. Merci. Encore une demi-heure, ça passe trop
merci
vite.
Merci d'agréer.
Est-ce que vous pourriez juste nous parler l'un l'autre de vos actualités du moment ?
Très bonne idée.
Eh bien, l'actualité, la mienne, c'est cette exposition qu'on a évoquée tout à l'heure,
ouais, hein,
chez JMO, chez Jean-Marc Oluski, dans la zone de Tournesy. Puis c'est l'écriture d'une, si j'ose dire, une nouvelle, oui.
Très bien.
Entre autres choses.
En cours. Qui sera publiée chez Ubicar, peut-être ?
Si mon éditeur en est d'accord.
Mm-hmm. Et vous ?
Nous verrons.
Monsieur Rivière ?
Actualité ?
Oui.
Ben, c'est simple, le mois de mars va se marquer par 3 événements. Le 7, c'est-à-dire dans quelques jours, la sortie d'un ouvrage qui s'appelle Éclat de femme, qui est un ouvrage qui est en lien avec le 8. Qui est la Journée internationale des droits des femmes. Le 11, nous avons une première pour l'année 2025. Nous allons avoir tous les mois une exposition d'artistes, peintres ou de photographes qui sera dans le théâtre Beaux-Arts Tabar, où nous avons un petit peu notre présence est très tolérée. Et donc, à partir du 11, il y aura M. Belin qui exposera.
Bernard Belin.
Pendant 3 semaines, 1 mois. Ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième activité, ça sera en fin de mois. Alors, il y a 3 dates, 7, 11 et probablement le 25, où il y aura la sortie de presse mensuelle. Parce que nous avons une sortie de presse par mois, dans laquelle on a l'occasion de voir les nouveautés, mais aussi, on peut dire des textes, il y a toujours des échanges.
Très bien.
Je peux rajouter 2 petites choses très importantes.
Secondes.
C'est que nous avons aussi, ce mois-ci, une grande première, puisque dans la nouvelle maison d'édition qui s'appelle Moreza, qui est la petite sœur, enfin, qui est la grande sœur du Bicar, parce que c'est une maison d'édition qui a plus de 20 ans maintenant, nous publions un catalogue de céramique de Saint-Jean-de-Fosse, qui va être à la fois le catalogue des expositions et aussi un ouvrage technique sur la céramique de Saint-Jean. Ça, c'est important. Et tout à l'heure, dans une petite heure, je rencontre aussi un auteur dont on va publier un road movie ou un road trip, ça dépend comment on se place, qui se passe en grande partie à Gaza.
D'accord.
Et en 2013, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de temps pour qu'avec du recul, on se rende compte. Enfin, à mon avis, c'est un livre qu'il faudra lire avec attention, parce que tout y est.
Il me tarde de le lire.
Moi aussi.
Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette discussion. Merci à nos auditeurs et à très bientôt sur Divergence FM.
L'épluche livre.
Alors, vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde.